Autour de la question, Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver sur les ailes des oiseaux et dans le vol du bourdon, mais aussi des papillons, des mouches, des libellules ou des chauves-souris, pour nous interroger sur le vol chez les animaux. Titre de l'ouvrage de notre invité, de nos invités, ils sont deux, l'entomologiste Vincent Albouy et l'ornithologue Jacques Blondel, ouvrage superbement illustré dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs. Histoire de percer un peu le mystère du vol stationnaire ou à reculons des oiseaux-mouches, les foudroyants piquets de certains insectes ou les longs vols internationaux des oiseaux et même l'envol des tout premiers ptérosaures. Depuis quand voler, ce si vieux rêve de l'humanité, est-il apparu? Comment a-t-il évolué? S'est-il perfectionné de toutes les manières possibles et imaginables, nous inspirant même à nous les humains, avions, drones et autres objets volants du futur? Voilà ce que nous allons chercher à comprendre ensemble autour de la question « Comment volent les animaux ?» Bienvenue pour prendre le nôtre d'envol à l'écoute de celui du bourdon de Rimsky-Korsakov, remixé et augmenté par Alice Ménard. Comment et depuis quand volent les insectes? Ont-ils pris leur envol? Enfin, les insectes en particulier et les animaux en général. Vincent Albouy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu à La Rochelle. Pourquoi, comment et depuis quand les oiseaux? Mais oui, les oiseaux, bien sûr, volent-ils? La question est pour vous, Jacques Blondel. Bonjour.
Ils volent depuis très longtemps, probablement depuis leur origine. Les oiseaux descendent de dinosaures particuliers, qui s'appellent des théropodes. Et ça s'est passé il y a plusieurs... Il y a au moins une centaine de millions d'années.
Merci pour cette réponse, Jacques Blondel. Et merci d'être en direct par téléphone avec nous pour partager, on l'a bien compris, ce que vous avez compris et ce que vous cherchez à comprendre sur le vol des animaux. Ça, c'est l'ouvrage que vous venez d'écrire à quatre mains. Donc, Jacques Blondel et Vincent Albouy aux éditions Quaé. Alors, Vincent Albouy, revenons-en à vous. Vous êtes entomologiste. Vous avez mené vos recherches sur les insectes au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous êtes actuellement président d'honneur de l'Office pour les insectes et leur environnement. Auteur de nombreux ouvrages, on peut citer le dernier, Merveilleux papillon, qui est paru chez Glénat. Quand on pense au vol, Vincent Albouy, on vient de le faire avec Jacques Blondel, on pense évidemment et d'abord aux oiseaux. Et pourtant, Vincent Albouy, est-ce qu'on peut dire que ce sont les insectes qui, les premiers, ont pris leur envol?
Oui, on peut le dire. D'ailleurs, les oiseaux ne sont que médaillés de bronze. Jacques pourra vous expliquer qui est médaillé d'argent dans cette affaire. Et donc oui, les insectes sont les premiers animaux. Alors, il faut définir le vol. Si le vol, c'est se déplacer dans l'air, en fait, les animaux volent depuis très longtemps parce que le vent peut faire des déplacements passifs totalement involontaires. Mm-hmm. On a des études sur l'Antarctique qui ont montré que des nématodes, des petits hiver, par exemple, colonisait de nouveaux milieux grâce aux tempêtes violentes.
Ah oui, en se déplaçant, on se laisse emporter.
Même pas en se laissant, en étant emporté sans le vouloir et en étant déplacé. Donc là, il y a énormément d'animaux comme ça, sans ailes, mais de très petite taille qui tournent en permanence, qui volent, qui sont dans l'air, qui sont en suspension dans l'air. On appelle ça le plancton aérien. Après, on a une catégorie qui est spéciale, c'est ce qu'on appelle le vol par aérostation. C'est un peu comme le ballon chez nous, c'est-à-dire qu'on sait d'où on part, on ne sait pas où on va atterrir. Donc c'est un vol volontaire au sens où l'animal veut se déplacer dans l'air, mais il ne contrôle pas son vol. Donc ça, c'est trois groupes seulement, les araignées, les acariens et certaines chenilles. Alors c'est très peu nombreux, quelques dizaines d'espèces. Mmh. Et ça se fait au bout d'un fil de soie qui sert de ballon ascensionnel, en quelque sorte. Et là, on n'a aucune notion de quand c'est apparu, puisqu'il n'y a aucune trace fossile. De toute façon, chenilles étant des insectes assez récents, les papillons volants avant que les chenilles... Au moins pour les chenilles, c'est une apparition récente. Après, pour les autres, c'est... on ne sait pas. Et pour le vol dont on est sûr, les premiers fossiles datent de 325 millions d'années au Carbonifère, donc à l'époque du charbon, en période de COP26, c'est pas très politiquement correct, mais c'est grâce à l'exploitation charbonnière du 19e siècle qu'on a trouvé ces fossiles les plus anciens.
Les plus anciens insectes volants, et vous avez dit qu'il y avait eu les fils d'araignées, enfin des araignées volantes aussi.
Mais ça, on ne sait pas si elles étaient avant ou après. Et donc, ces fossiles-là, en fait, montrent déjà une évolution avancée. Donc, quand est-ce que le vol est apparu? Là, c'est encore débattu et il n'y a aucune preuve. Mais selon les opinions des uns ou des autres, c'est 360 millions d'années, 320, voire 340.
Pour les insectes.
420 millions d'années. Les insectes.
Grossièrement, pour dire les insectes, donc vous avez bien dit, Vincent Albuy, qu'ils avaient la médaille d'or par rapport au vol, c'était les premiers.
Les plus anciens, voilà.
Médaille de bronze, les oiseaux, vos oiseaux, Jacques Blondel. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS en biologie évolutive et que vous avez choisi les oiseaux comme modèle biologique. Vous avez aussi été président du conseil scientifique de l'Institut français pour la biodiversité et de l'Union européenne des ornithologues. Les oiseaux, donc médaille de bronze, qui sont les médailles d'argent, Jacques Blondel?
La médaille d'argent, les oiseaux ont la médaille d'or pour le vol.
Ah, non, ok, d'accord.
Ce
sont les meilleurs. Alors disons, on a vu les insectes, on a vu les oiseaux. Évidemment, ce sont ceux à quoi on pense en premier, avec les ailes, mais il y a aussi des animaux qui n'ont pas d'ailes et qui volent.
On ne peut pas dire qu'ils volent vraiment, ils planent plutôt. Il y a effectivement les seuls vertébrés autres que les oiseaux qui volent réellement sont les chauves-souris.
Voilà.
Mais on a aussi d'autres animaux vertébrés qui volent, qui planent. Ils ne volent pas vraiment, ils planent. Il y a des écureuils qui planent, il y a même des grenouilles qui planent, il y a même un serpent qui plane.
Ah oui. Voilà.
Alors, on parle de trucs volants, mais ce n'est pas vraiment des volants, c'est des planeurs.
C'est ça, c'est des planeurs.
Il n'y a que les chauves-souris. Les chauves-souris ont maîtrisé le vol aussi bien que les oiseaux. C'est assez extraordinaire.
Mais de manière différente, justement, on va y venir. Et on va se demander maintenant, pourquoi le vol est apparu au cours de l'évolution? Nouvelle question tout de suite pour vous deux, soulevée par le biologiste et vidéaste le plus populaire sur la toile. Et pour cause, c'est Léo Grasset de Dirty Biology qui était récemment notre invité pour son dernier ouvrage, Le grand bordel de l'évolution. On l'écoute.
Combien de fois est-ce que le vol est apparu de façon convergente dans l'évolution? Je me demande si on a une idée de combien de fois c'est apparu, quoi. À quel point c'est une bonne idée, en fait, évolutivement. À quel point on sait si c'est... Peut-être c'est apparu 40 fois et on a une idée très ferme. En fait, peut-être c'est pas du tout... C'est apparu 3 fois et c'est genre un miracle.
Est-ce que c'est un miracle? Est-ce qu'on a une idée? Pourquoi? Pourquoi, finalement, quel est l'avantage du vol? Je ne sais pas qui veut répondre. Peut-être Jacques Blondel?
Oui, alors le vol est un mécanisme fabuleux pour conquérir de nouveaux habitats, de nouvelles ressources, de nouveaux milieux, etc. C'est ce qui explique que les oiseaux sont présents dans tous les habitats du monde, ça va de l'Arctique à l'Antarctique, dans tous les milieux, jusqu'aux hautes montagnes, etc. Et puis c'est aussi un merveilleux outil pour acquérir une nourriture qui est quelquefois très difficile à prendre. On prend l'exemple, par exemple, des Phylloscopus. Phylloscopus, c'est le nom d'une petite famille d'oiseaux appartenant à la famille des fauvettes, qui pèse moins de 10 grammes. Et Phylloscopus, ça veut dire Phyllos, feuille, Scopus, regarder. C'est des petits trucs qui regardent les feuilles. En fait, regarder les feuilles, ça veut dire chercher des petits pucerons, des petits moucherons, des tout petits insectes sur la face inférieure des feuilles. Alors, ils volent sans dessus-dessous, la tête en bras, ils cherchent leur nourriture dans la feuille. Et ça, seul le vol, seule l'aptitude au vol permet des performances aussi extraordinaires.
Vincent Albuy, je vais vous retourner la question aussi. Pourquoi, quel est l'avantage ou l'intérêt du vol dans l'énorme famille des insectes?
Alors, pour les insectes, il y a un avantage qui a été mis en évidence tout de suite. C'est comme c'est les premiers à voler, ils se sont abstraits des prédateurs terrestres. C'est possiblement une raison d'évolution. Mais il y en a probablement d'autres, notamment comme ces tapins, enfin en tout cas, ces premiers insectes volants vivaient à l'époque du Carbonifère et des grandes forêts du Carbonifère, qu'ils ponctionnaient la sève ou les liquides des plantes, des feuilles des plantes, parce qu'ils avaient une sorte de rostre. Certains entomologistes pensent qu'en fait, le vol est aussi apparu parce qu'ils ont pu ponctionner l'extrémité des feuilles au bout des rameaux, ou sinon, comme c'était quand même des insectes assez gros, ils étaient trop lourds pour se déplacer facilement. Et d'autre part, c'est beaucoup plus simple pour passer d'une plante à l'autre de voler que de descendre de la plante, de remonter sur l'autre, où on consomme beaucoup d'énergie et de temps. Donc il y a probablement un ensemble de facteurs qui ont conduit à cette apparition, sachant que ce qui n'est pas encore très bien compris, c'est que comment on est passé d'un animal purement terrestre à un animal capable de voler. Ça ne se fait pas comme ça, d'un claquement de doigts. Il y a forcément des chaînons intermédiaires, et là, c'est beaucoup plus flou.
C'est beaucoup plus flou. Est-ce qu'on a toujours besoin d'ailes pour voler? Enfin, on a parlé des chauves-souris, où ce sont les doigts aussi qui enfin, les doigts et les membranes qui les permettent de voler. Est-ce qu'on a toujours besoin d'ailes chez les insectes pour voler?
Le mot aile, en fait, recouvre des réalités morphologiques très différentes. Mmh. L'aile de l'oiseau n'a rien à voir avec l'aile de la chauve-souris ni avec l'aile de la libellule. Donc l'aile, c'est l'organe qui permet de voler. Après, chacun a trouvé une solution en fonction de ce qu'il disposait dans sa boîte à outils. Et donc, pour les insectes, c'est des expansions de la carapace, probablement aussi des branchies à l'époque où ils étaient... des restes de branchies de l'époque où ils étaient marins qui ont servi aussi à constituer cette aile. Et en tout cas, les gènes qui font apparaître les ailes, on a montré que pour le dessus de l'aile, c'était des gènes de la carapace, et pour le dessous, c'était des gènes de l'ancienne branchie. Donc, vous voyez, c'est très complexe. Et puis après, Jacques pourra aussi développer pour les oiseaux, les chauves-souris, où c'est très complexe aussi.
Jacques, vous voulez développer ?
Oui, alors l'aile, que ce soit celle des oiseaux ou celle des chauves-souris, a entraîné nécessairement des modifications tout à fait considérables d'une part de la musculature, mais aussi du squelette de l'oiseau. Il a fallu, par exemple, que la masse de l'animal diminue considérablement pour qu'il soit le plus léger possible.
Bien sûr.
Le centre de gravité de l'oiseau s'est déplacé du corps s'est déplacé aussi de manière qu'il soit juste sous l'attache des ailes sur le rachis, sur la colonne vertébrale. Mmh. Et puis, les modifications du squelette ont impliqué la main a été complètement transformée. Par exemple, les doigts de la main se sont soudés en un carpométacarpe allongé qui portait ce qu'on appelle les rémiges. Il y a deux catégories de rémiges. Les rémiges sont les ailes qui portent l'oiseau et qui le font avancer. Ce sont celles qui sont actives dans les battements d'ailes. Voilà. Et toutes ces modifications se retrouvent, mutatis mutandis, d'une manière un peu différente mais homologue chez les chauves-souris. On peut dire que les ailes des chauves-souris sont formées d'un ce qu'on appelle un patagium. Ce ne sont pas des plumes, ce sont une membrane très légère qui s'étend de l'extrémité de la main à l'extrémité du corps et qui englobe même la queue, de sorte qu'on a une membrane qui rejoint la queue aux pattes postérieures. On appelle l'uropatagium.
Et voilà ce qui permet aux chauves-souris de voler. Mais quand on n'est pas une chauve-souris, comment voler quand on n'a pas non plus la taille d'un insecte, d'une mouche ou d'un colibri, d'un petit oiseau, et qu'on est plutôt du genre poids lourd? Nouvelle question à remonter le temps sur les ailes des ptérosaures, soulevée par ma consoeur Cécile Estienne de Cerveau et Psycho.
Quand on regarde la morphologie de certains ptérosaures, voilà, notamment leur taille, leur poids, et on sait qu'ils volaient. Je crois qu'il y a eu beaucoup de travaux sur justement comment volaient ces animaux. Mais est-ce qu'on a pu bien comprendre comment ils pouvaient décoller avec cette taille-là?
Comment? Oui. Qui veut répondre?
Les ptérosaures sont les animaux qui ne sont pas des oiseaux. C'est un groupe complètement différent des oiseaux.
C'est un groupe de dinosaures.
Non, ce ne sont pas des dinosaures. Ce ne sont pas des dinosaures. Les dinosaures et les ptérosaures sont apparentés, mais les ptérosaures ne sont pas des dinosaures. Ce sont des animaux qui pouvaient être absolument énormes. Le plus grand ptérosaure qui ait jamais volé pesait 400 kilos, probablement. Il devait avoir une envergure d'une dizaine de mètres. Et les muscles pectoraux, le moteur, si vous voulez, de la machine à voler, les muscles pectoraux étaient d'un poids absolument énorme, presque 200 kilos à eux seuls, puisqu'ils formaient 40% de la masse de l'oiseau.
Mais comment ça décolle, un énorme machin comme ça?
C'était des trucs extraordinaires qui, probablement, d'après les modélisations qu'on a pu faire à partir des fossiles qu'on a trouvés, il devait pouvoir réussir à s'envoler directement, comme le font les plus grands oiseaux maintenant, qui sont évidemment beaucoup plus petits, mais qui volent, qui s'envolent en courant, comme un avion décolle après avoir roulé un certain temps. Là, les grands oiseaux actuels courent un certain temps avant de pouvoir s'envoler. C'est le cas des albatros, par exemple, ou c'est le cas de grandes outardes qui courent par terre avant de pouvoir prendre leur envol.
C'est ça, voilà, ils devaient se jeter. On imagine
les ptérosaures. Et les ptérosaures, c'était un groupe absolument fabuleux d'oiseaux. Il y avait probablement des centaines d'espèces qui peuplaient la planète entière.
Voilà. On a une idée, on imagine ces énormes bestioles, ces ptérosaures qui couraient pour décoller ou qui se jetaient dans les airs. Est-ce qu'on a une idée pourquoi justement ils étaient trop lourds pour continuer à voler? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus du tout d'espèces de ce genre-là, que ce sont finalement les oiseaux qui leur ont succédé, Jacques Blondel? On a une idée
Oui, alors, aux ptérosaures ont succédé les dinosaures. Les dinosaures qui étaient un groupe qui a entre 200 millions d'années à peu près. Et au groupe des dinosaures appartient une espèce tout à fait célèbre qui est l'Archéoptéryx. L'Archéoptéryx était un dinosaure qui appartenait à un groupe très particulier qu'on appelle les théropodes. Et les théropodes étaient des dinosaures à plumes qui ont été, on peut dire, des ancêtres des oiseaux.
C'est ça, à plumes colorées.
Les dinosaures, il y en avait pas mal qui volaient. Hein. Il y avait des trucs extraordinaires qui volaient en mer, qui étaient souvent des espèces prédatrices. Voilà. Et qui occupaient tout ce qu'on appelle les niches. Les niches terrestres étaient occupées autrefois, avant la fin du Crétacé, par les dinosaures. Et l'extinction des dinosaures à la fin du Crétacé a permis justement l'explosion adaptative, comme on dit, l'envol de ces grands groupes de vertébrés actuels que sont les mammifères et les oiseaux.
Il y a aussi, revenons-en à nos insectes, on va y revenir aussi, Vincent Albouy. Finalement, moi j'ai l'impression aujourd'hui, quand on pense à ces ptérosaures ou à ces dinosaures à plumes volants, que c'est chez les insectes, mais en miniature, qu'il y a de tels monstres volants, mais ils sont juste tout petits.
Ils sont tout petits à l'échelle du ptérosaure, à l'échelle d'un insecte. Le record, c'était toujours au Carbonifère.
Oui.
C'est une libellule qui mesurait 70 cm d'envergure.
Ah, tout de même.
Qui a d'ailleurs été trouvée en France, dans le bassin minier de Commentry, du côté de Saint-Étienne. Et c'était énorme. C'est le double des insectes volants actuels les plus grands qu'on peut trouver. Et alors, pourquoi il y a eu ces monstres qui n'existent plus? L'une des raisons, alors je ne sais pas si c'est valable pour les ptérosaures ou pas, en tout cas, une des raisons avancées par certains entomologistes serait qu'à cette époque-là, l'atmosphère était beaucoup plus riche en oxygène, en tout cas était plus riche en oxygène, donc ça permettait une meilleure performance des muscles,
et donc
ça
portance.
Permettait voilà, une meilleure portance, d'avoir une plus grande taille. Mais après, le gigantisme, à un moment donné, c'est pas forcément un avantage, ça peut aussi être un inconvénient, et donc peut-être que ces géants ont disparu parce qu'ils étaient trop grands aussi.
Autour de la question pourquoi et comment les animaux ont eu et ont toujours mille et une façon de voler, on s'interroge en musique maintenant avec Dieu Joie pour nous faire pousser des ailes sur RFI.
S'alléger d'un skinhead pas léger.
Des ailes pour s'envoler avec Joe Joas sur RFI. Autour de la question du vol des animaux, nous sommes en duplex avec l'entomologiste Vincent Albouy et par téléphone avec le chercheur en biologie évolutive et ornithologue Jacques Blondel. Tous deux viennent de publier aux éditions Quae Le vol des animaux, ouvrage que vous pouvez gagner, chers amis auditeurs. Si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale, et vous découvrirez ainsi peut-être les secrets du vol du colibri, l'un des oiseaux les plus rapides et l'un des seuls capables de voler en arrière.
Le colibri est surnommé l'oiseau-mouche. Il est célèbre pour sa petite taille et sa vitesse de vol impressionnante. Il peut battre des ailes jusqu'à 200 fois par seconde. Sa vitesse moyenne est de 56 km/h, mais il peut aller beaucoup plus vite. Le colibri est le seul oiseau à pouvoir voler en arrière. Il est aussi capable de faire du surplace tout en battant des ailes. Mais alors, comment réussit-il cet exploit? L'explication se trouve dans son anatomie. Il dispose d'ailes longues et fines. Et sa structure osseuse très souple lui permet de battre des ailes dans n'importe quel sens. Il peut voler horizontalement, verticalement, s'arrêter net et même rebrousser chemin.
Le vol arrière du colibri, dévoilé dans cette vidéo Disney Nature. C'est le seul oiseau, Jacques Blondel, où je me trompe, capable de voler en arrière?
Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui. La structure de l'aile du colibri est très particulière. Il a des torsions qui lui permettent de retourner son aile et de voler en arrière. C'est le seul groupe. Les colibris ne sont pas des passereaux. C'est une famille très particulière d'oiseaux qui n'habitent que le Nouveau Monde, Amérique du Sud et Amérique du Nord. Mm-hmm. Ce sont des animaux qui peuvent être tout petits. Le plus petit oiseau du monde est un colibri. Mm-hmm. Il pèse moins de 2 grammes, 1,8 grammes. Et son œuf pèse 1,5 gramme. Vous pensez que dans 1,5 gramme, il y a tout le programme réalisé pour faire un oiseau complet avec un métabolisme et un vol parfait, etc.
Et voilà. En plus, il est magnifique.
Les colibris sont des animaux extraordinaires, c'est sûr.
Et ils sont très beaux aussi. Il y a de nombreuses illustrations magnifiques dans cet ouvrage de vol chez les animaux. Chez les insectes, Vincent Albouy, le vol arrière aussi est pratiqué. Des chercheurs ont d'ailleurs étudié et compris comment les libellules, on y arrive, sont de véritables acrobates du ciel. L'étude de ces chercheur est paru en 2018 dans le journal de la Royal Society dans le secret du vol arrière des libellules extrait.
Dragonflies can fly upside down.
Les libellules peuvent voler à l'envers, planer, tourner à 360 degrés et atteindre des vitesses allant jusqu'à 55 km/h. Elles peuvent même voler en arrière avec autant d'habileté que vers l'avant. Et les chercheurs ont enfin compris comment. Les scientifiques ont capturé plus de 40 libellules dans la nature et ont placé des points sur leurs ailes pour enregistrer leurs mouvements. Ils les ont ensuite enregistrées avec des caméras à haute vitesse. En analysant ces vidéos, ils ont découvert que pour voler en arrière, les libellules inclinaient leur corps vers le haut à un angle de 90 degrés par rapport à l'horizon. Cette rotation du corps entier change la direction de la force générée par les ailes au lieu de changer uniquement l'orientation de leurs ailes. Ce type de vol arrière, parfois utilisé par les hélicoptères, est étonnamment aérodynamique chez les libellules, qui n'utilisent pas plus d'énergie que pour leur vol avant. Cette étude peut aider les ingénieurs à concevoir des robots aériens plus acrobatiques, capables aussi de voler en arrière.
Avant de s'en inspirer des libellules et de leur vol pour nos futures machines volantes et autres drones, comment s'est perfectionné le vol chez les libellules en particulier et chez les insectes en général, Vincent Albouy?
Alors, les libellules représentent un groupe finalement très primitif, avec ailes. Quatre ailes qui ne peuvent pas se replier pour les libellules vraies. Les demoiselles, ça peut se replier sur le dos, mais les ailes elles-mêmes ne se plient pas. Ce sont des ailes encombrantes, très grandes, mais ça leur permet un vol quasiment parfait, puisqu'on voit qu'elles arrivent à voler dans toutes les directions. L'évolution s'est faite dans plusieurs directions. La première direction, ça a été une l'inconvénient d'avoir quatre ailes, c'est qu'il faut les coordonner.
Ah oui.
Donc plus voilà. Donc une des directions, ça a été de réduire à deux ailes seulement. Alors ça s'est fait différemment. Par exemple, chez les papillons, les ailes débordent largement les unes sur les autres, ce qui fait qu'elles sont plus ou moins entraînées l'une par l'autre. Chez les mouches, il y a une aile qui a carrément disparu. Elle s'est transformée en petite massette qui permet un vol très stable. Chez les abeilles, par exemple, chez les hyménoptères, les deux ailes se sont accrochées par des systèmes de crochets et de gouttières. Et puis, chez les coléoptères, y a une paire d'ailes qui est devenue une élytre protectrice durcie, qui, pendant le vol, peut éventuellement servir à planer, mais en tout cas, qui ne bat pas. Et il n'y a qu'une seule aile qui sert au vol lui-même, à la propulsion elle-même. Donc, vous voyez, toutes ces innovations, qui sont parties dans des directions différentes, ont permis aussi des performances différentes. Donc, les mouches...
Allez-y sur les mouches.
Donc les mouches sont des directes héritières des libellules parce que avec un corps beaucoup plus petit, des ailes beaucoup plus petites, elles font encore mieux. Parce que non seulement elles volent en avant, en arrière, par en-dessus, par en-dessous, mais elles sont capables de faire un démarrage quasiment instantané. Elles sont capables de voler tout droit, puis d'un seul coup, à angle droit, de partir sur le côté. Enfin, c'est vraiment impressionnant, notamment les cirfes. Donc voilà, les mouches, c'est les plus grands acrobates. Les abeilles, les guêpes, qui sont des animaux qui nourrissent leurs larves, donc qui doivent transporter de la nourriture, vont être les meilleurs cargos. C'est-à-dire, ce sont des insectes qui sont capables de décoller avec des charges très lourdes, des fois plus que le poids de leur corps. Non seulement de décoller, mais de voler assez loin. Hein, on sait qu'on a des abeilles qui, par exemple, font 11 km pour aller chercher de la nourriture. Simplement, elles sont malines, c'est-à-dire qu'elles volent contre le vent à l'aller, et elles volent avec le vent dans le dos au retour pour les aider à transporter la charge.
C'est fascinant quand même, hein. Complètement fascinant. Toutes ces évolutions, toutes ces mille et une techniques de vol, donc chez les insectes, on l'a bien vu, les mouches sont assez championnes, moi je pensais que c'est les libellules, mais ce sont les mouches apparemment. Jacques Blondel, chez les oiseaux, on a parlé des colibris, il y a toutes les tailles aussi, il y a aussi différentes manières de voler, il y a des perfections, des perfectionnements aussi assez extraordinaires.
Ah ben oui, alors il y a deux grands types de vols. Il y a le vol plané, au cours desquels l'oiseau étend les ailes, bat très peu des ailes, mais se laisse porter par des courants ascendants. Et c'est la raison pour laquelle le vol plané n'a lieu que de jour. Et d'autant mieux que le temps est meilleur et qu'il y a des vents ascendants qui assurent une portance importante pour l'oiseau. Et puis le vol battu. Alors le vol battu nécessite que les ailes battent en permanence. Voilà. Alors il y a un mouvement ascendant de l'aile au cours de laquelle il ne se passe rien. Et c'est au cours du mouvement descendant de l'aile que se pratique ce qu'on appelle la portance de l'oiseau et puis la propulsion vers l'avant. Voilà. C'est les deux grands types avec des quantités de variantes. Il y a le colibri dont on a parlé tout à l'heure, et puis il y a des quantités de variantes de vol qui permettent au vol battu d'être plus ou moins rapide. Il y a le vol en piqué, et puis il y a des vols en formation aussi.
Et oui,
les oiseaux volent en V, en forme de V. Voilà, ils volent en V. Il y a d'ailleurs des schémas explicatifs dans les livres.
Absolument.
Qui expliquent comment les vibrations et les mouvements d'air qui sont produits par le bout de l'aile d'un oiseau sont mis à profit par l'oiseau qui le suit directement, ce qui suppose une économie d'énergie qui va jusqu'à 20%, ce qui est important. Voilà.
Important d'économiser l'énergie quand on vole et quand on vole très loin. On viendra aussi sur le vol des oiseaux migrateurs, là aussi extrêmement impressionnant. Autour de la question jusqu'à quelle vitesse peuvent voler les oiseaux, je propose de nous arrêter sur le piquet du faucon pèlerin, l'oiseau le plus rapide du monde. Extrait du zapping sauvage, vidéo de France TV.
Le faucon pèlerin est l'animal le plus rapide au monde. Il chasse d'autres oiseaux et les repère souvent de très haut avant d'attaquer. Puis il plonge en une fraction de seconde en repliant ses ailes pour mieux fendre l'air. Si sa proie se cache, la manœuvre peut devenir dangereuse. À grande vitesse, une collision avec un arbre serait fatale. Pour augmenter ses chances et éviter les accidents, le faucon pèlerin chasse en zone dégagée. En repliant ses ailes, il réduit la résistance de l'air au minimum, ce qui lui permet d'atteindre 320 km/h. Quand il se prépare à frapper, les serres en avant, la force de l'impact est telle que la moindre erreur pourrait lui être fatale. Malgré sa vitesse et son agilité extrême, le faucon pèlerin échoue la plupart du temps. Chaque fois, il doit puiser dans ses dernières forces pour remonter à très haute altitude. Cet équilibre entre énergie dépensée et prise de risque est crucial pour tous les prédateurs ultra rapides.
Jacques Blondel, une réaction peut-être sur ce vol à 300 km/h sur le piquet du faucon pèlerin, véritable athlète du vol.
Oui, c'est pas vraiment du vol, c'est un piquet, donc il descend comme un obus, c'est comme une balle qui sort d'un fusil. Il va à toute allure. Alors effectivement, comme c'était expliqué précédemment, c'est pas sans risque, parce qu'on risque de se fracasser un arbre ou contre le sol. Mais le taux de réussite du faucon pèlerin est un peu plus important que ce qui vient d'être mentionné. Et puis aussi, on s'est posé la question de savoir, dans certains cas, si l'oiseau ne s'amusait pas. Et en fait, faisait des piquets.
Il joue à se faire peur un peu.
Sans objectif particulier. Voilà. Cela dit, c'est vrai que les records de vitesse sont réalisé par les faucons pèlerins, ça c'est vrai. Voilà.
Du côté des insectes, Vincent Albouy, cette énorme famille, est-ce qu'il y en a qui vont plus vite que d'autres ?
Oui, on a des insectes qui volent à très petite vitesse, notamment les tout petits. Un puceron en vol, ça va pas très vite. Mais 55 km/h pour les libellules, c'est pas mal. C'est un peu comme le problème du faucon, c'est-à-dire il faut réfléchir en termes de durée du vol. Mm-hmm. Sur des très courtes distances, sur quelques fractions de secondes, on peut atteindre des vitesses très élevées. Le cirf qui d'un seul coup se dégage de côté. Oui, le cirf, c'est une mouche. On a aussi d'autres mouches comme ça. Enfin, je crois que le record, c'est plus de 100 km/h. C'est une autre mouche, mais c'est sur...
Oh, c'est pas mal.
Oui, c'est sur 1 cm pour approcher une femelle. Enfin, voilà, c'est presque rien. Sur les vols longue distance, 55 km, c'est déjà pas mal. Il faut voir la taille de l'animal. Un insecte qui court au sol, c'est... Pour les plus rapides, c'est 2-3 km/h, vu leur taille. C'est pas 100 km/h. Donc, relativement à la taille, ces ordres-là, 50-60 km/h. Les abeilles, par exemple, c'est de l'ordre de 20-30 km/h sur des distances assez longues.
Tout est question, vous avez raison, de distance. Et du coup, je me retourne vers vous, Jacques Blondin, sur les migrations et les vols à ultra longue distance des oiseaux dans tous les sens, qui émigrent plusieurs fois par an sur des distances incroyables.
Voilà, alors les distances de migration sont quelque chose qui a toujours fasciné les hommes depuis Aristote. Aristote, on était fasciné par ces mouvements réalisés par les oiseaux. Alors, il y a des records absolument extraordinaires de migration. Par exemple, les petits pouillots dont je vous parlais tout à l'heure, ces tout petits oiseaux qui pèsent moins de 10 grammes, qui nichent par exemple en Eurasie orientale, en Sibérie, et qui vont hiverner dans les régions tropicales d'Afrique. Mmh. Alors ils traversent à l'automne l'immense continent eurasiatique, ils arrivent en Europe, ils tournent à angle droit pour prendre une direction nord-sud, et ils atteignent l'Afrique. Alors ils passent la Méditerranée, puis le Sahara. Alors ça suppose des adaptations tout à fait remarquables, d'abord sur le plan de l'aptitude au vol, hein, le mécanisme du vol, mais ça suppose aussi des adaptations tout à fait remarquables d'un point de vue physiologique et métabolique.
Et oui, entre le super froid et le chaud.
Qui est, le combustible qui est utilisé pour faire ces traversées-là, c'est un peu comme un avion qui remplit ses soutes de kérosène. Juste avant de partir, un oiseau, un petit passereau qui s'engage dans des longues migrations, il doit accumuler du combustible. Mmh. Et ce combustible, c'est des graisses qu'il accumule autour de lui, sur lui, comme ça, et qui lui permettent de voler. De voler quelquefois 2 jours de suite, sans s'arrêter.
De voler 2 jours de suite, mais un alors, petit couillot de 10 grammes.
Les records sont établis par des limicoles, des barges ou des bécassos, des oiseaux d'eau, comme ça, qui arrivent à faire jusqu'à 6000 km sans s'arrêter.
Oh là là, 6000 km sans s'arrêter pour ces oiseaux-là. Et en plus, en se repérant hein, parfaitement, il y aurait de quoi en dire beaucoup sur les migrations des oiseaux autour de la question du vol des animaux. Allez, on reste dans le sillage des oiseaux, migrateurs ou pas, ce sont ceux de Fred Fortin sur RFI.
J'écoutais le chant des oiseaux, je regarde vers le ciel, je reconnaissais le corbeau, c'est assez universel. Qu'attends-tu au bout du poteau, et devant moi qui n'a pas d'aile, t'as pas l'air de me trouver bien beau. J'ai pas de plume, juste un peu de poil. T'en viens-tu me prêcher des malheurs dans ta robe de monastère? Je pourrais rester là et te fixer pendant des heures. Tu ne changerais pas d'air. Je voudrais quand même pas que tu penses que je t'ai pas vu venir. Même minable, je suis orgueilleux. Et ton chant me dit non et quelque chose dans le temps qui le fait mentir. Tu n'as pas fait tout le calcul.
Le drôle d'oiseau de Fred Fortin sur RFI. Autour de la question comment volent les animaux, des insectes aux oiseaux en passant par les chauves-souris et les libellules. Comment volent les animaux, le vol chez les animaux, c'est ça le titre exact de l'ouvrage de nos invités, le biologiste et ornithologue Jacques Blondel et l'entomologiste Vincent Alboui. Comment d'ailleurs nous sommes inspirés du vol des animaux pour nos machines volantes et même pour atteindre de lointaines planète à l'atmosphère irrespirable. C'est tout le sens de l'éclairage en forme de question assez sidérale de Florence Porcel, autrice et vidéaste de l'espace. On l'écoute.
La prochaine mission de la NASA vers Titan s'appelle Dragonfly, qui veut dire libellule en anglais, et ce sera effectivement un quadricoptère comme une libellule qui volera sur Titan. Donc une libellule, c'est un monde extraterrestre. Moi, j'ai hâte de voir ça. Et est-ce que vraiment ça ressemblera à une libellule? Et comment vole une libellule? Et est-ce qu'une libellule pourrait voler dans l'atmosphère très épaisse de Titan?
Vous en pensez quoi, Vincent Alboui? Est-ce qu'une vraie libellule pourrait voler, puisque le drone Dragonfly de la NASA, qui veut survoler l'atmosphère épaisse, pleine de méthane de Titan, a pensé à la forme et aux ailes d'une libellule?
Alors déjà, plus l'atmosphère est épaisse, plus c'est facile de voler.
Ah.
Donc, puisque c'est un peu comme l'eau. Plus l'eau est salée, elle est dense, plus on peut nager. Même on n'arrive pas à se noyer dans la mer morte, paraît-il. en tout cas, on n'arrive pas à couler dans la mer morte. C'est plus facile pour les ingénieurs que sur la Lune, où il n'y a pas de... où il n'y a pas d'atmosphère. Mais après, je pense que ce sera, oui, un quadricoptère,
oui, c'est ça.
Quadricoptère, mais je doute que ça ressemble à une libellule, parce que c'est trop complexe à copier. Il faut s'imaginer que les ailes des engins volants humains, ce sont des ailes qui sont rigides. Alors il peut y avoir des volets qui bougent, mais c'est rigide. Mmh. Les ailes des insectes, les ailes des oiseaux, enfin les ailes des animaux en général, ce sont des ailes qui se déforment, donc c'est très très difficile à copier. D'ailleurs, on n'y est toujours pas arrivé.
Mais c'est
à
ça,
ma connaissance,
au fond,
on n'a jamais fait un insecte volant mécanique.
C'est ça. En fait, on n'a pas encore, hein, ou peut-être qu'on n'y arrivera jamais, réussi à faire mieux, si j'ose dire, que la nature, ou à faire des ailes. On a tenté de copier les oiseaux, Jacques Blondel, pour faire des avions, les ailes des oiseaux, mais en fait, on n'a pas réussi à faire des ailes qui ne soient pas rigides.
Oui, alors, mais Vincent vient de le dire à très juste titre, ce qu'on appelle les biomimétismes. Le biomimétisme consiste à imiter des solutions inventées par la nature pour réaliser des activités et des engins de type humain. Alors, les avions, comme le dit Vincent, les avions ont des ailes immobiles. Ce qui fait que la propulsion de l'avion est assurée par un moteur, alors que la portance de l'avion est assurée par les ailes. Chez les animaux, les chauves-souris et les oiseaux, les deux fonctions de portance et de propulsion sont assurées par le même organe qu'est l'aile, parce que l'aile peut se déplacer dans tous les sens. Mmh. Alors, on a quand même utilisé des structures d'avion, des structures d'animal, pour améliorer l'efficacité des avions. Il y a par exemple les aérofreins des avions, vous savez, ces plaques qui se soulèvent sur les ailes,
oui,
au moment où l'avion atterrit,
oui,
ça imite un système similaire qui a été inventé par la nature, qu'on appelle les rémiges policiales. Il y a tout un système d'aérofreins sur la voilure d'un oiseau qui lui permet de ralentir fortement juste avant d'atterrir. Et puis aussi, il y a des systèmes qui permettent d'éviter les trop de turbulences à l'extrémité des ailes. Ça se voit très bien sur les ailes des grands rapaces, comme les aigles par exemple. Il y a une émargination des plumes à l'extrémité de l'aile qui est imitée par les oiseaux, par les avions.
Oui.
Les avions ont le bout des ailes recourbé à angle droit, eh bien ça a la même fonction de réduction des turbulences de l'air au bout de l'aile.
Est-ce qu'on pourrait faire encore mieux, Jacques Blondin et Vincent Albouy, que la nature, que le vol des animaux? C'est Muriel Valin, ma consoeur du magazine scientifique Epsilon, qui vous pose la question.
Alors, la question que je me pose, c'est de savoir si on a fait le tour de tout ce qu'on pourrait découvrir en s'inspirant du vol des animaux. Alors, on sait que c'est un sujet qui est passionnant et sur lequel on a beaucoup travaillé, notamment autour du biomimétisme pour fabriquer des machines volantes. Est-ce qu'on en a fait le tour, ou est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas, avec les futurs taxis volants, les futures machines volantes qui vont encore être créées dans les prochaines années, est-ce que les animaux volants vont pouvoir nous souffler de belles nouvelles idées?
Vous en pensez quoi, Vincent Albouy, peut-être, sur le fil de l'araignée? Enfin, je ne sais pas.
Bon, le fil de l'araignée, ça a été résolu au XVIIIe siècle avec les ballons. Hein, donc, on fait aussi bien qu'elle. Même avec les dirigeables, on fait mieux. En fait, le monde animal est tellement complexe et tellement varié qu'on a étudié en détail le vol de très peu d'espèces.
Ah oui.
Donc il y a encore un continent totalement inconnu. Par exemple, chez les insectes, il y a des insectes qui ont des ailes, ce sont des petits filets. Les ailes sont découpées comme une série de poils.
Ah, des petits filets, oui.
Voilà, on ne comprend pas du tout l'aérodynamique. Il y a une phrase célèbre qui dit, d'après les calculs aérodynamiques, un bourdon ne pourrait pas voler. Et puis il y a des petits malins qui ont dit, mais comme il ne le fait pas...
Il vole quand même le bourdon.
En fait, la phrase veut dire que ce que les hommes savent en aérodynamique, c'est-à-dire leurs équations, appliqué à un bourdon, le bourdon ne peut pas voler. C'est donc bien qu'il y a d'autres règles qui fonctionnent très bien. Et ben pour ces petits insectes à ailes en filet, on est incapable de comprendre comment ça fonctionne. Donc il y a encore plein d'études à faire. Et je suppose que chez les oiseaux, c'est pareil.
Il y a un grand champ de recherche, hein, Jacques Blondel, chez les oiseaux aussi.
Oui, il y a un immense champ de recherche. Ce n'est pas sûr que sur les techniques de déplacement dans l'air, proprement dites, on apprenne beaucoup plus des oiseaux. Par contre, sur les matériaux, il y a des matériaux qui pourraient être mis à profit. Par exemple, le patagium des chauves-souris est constitué de...
Le patagium des chauves-souris,
Le patagium, c'est la membrane, la grande membrane qui fait fonction d'aile. C'est des, c'est des élargissements de la peau, si vous voulez. C'est de... Là, c'est des plaques de peau extrêmement minces, dont la structure des tissus est extrêmement légère, extrêmement solide, robuste. Et ça, ça pourrait peut-être être mis à profit par les ingénieurs aéronautiques pour trouver de nouveaux matériaux pour faire des aéronefs qui soient à la fois plus légers, plus... et plus solide. Voilà.
Donc, s'inspirer du vol des chauves-souris pour créer de nouveaux matériaux. Et qu'en est-il de ces... Il y a aussi, on l'a dit, enfin on l'a à peine évoqué, mais il y a aussi des écureuils volants, enfin des espèces d'animaux étranges qui ne devraient pas voler. Et vous appelez ça du vol ou pas?
C'est pas vraiment du vol, c'est des vols planés. C'est des animaux qui montent en l'air, dans les arbres, et puis qui passent d'un arbre à l'autre en se laissant glisser, mais en perdant d'altitude. Il y a... aucun autre animal qu'un oiseau ou une chauve-souris ne peut gagner de l'altitude par lui-même, autrement que soulevé par le vent. Donc c'est pas vraiment du vol, hein, c'est des... Il y a plusieurs espèces d'écureuils volants, il y a une grenouille volante même, mais ces animaux-là, ils font des glissades entre d'un point élevé à un point moins élevé.
En tout cas, ils arrivent quand même à planer tout seuls ou à voler. On n'a pas eu le temps de parler des papillons auxquels vous consacrez aussi. Enfin, on a parlé un tout petit peu, mais vous y consacrez un autre ouvrage, très bel ouvrage, Merveilleux papillons aux éditions Glénat. Vincent Albouy, je ne sais pas, un mot sur les papillons peut-être?
Oui, pour parler des migrations, le record de migration prouvé chez un papillon, c'est un grand monarque marqué, on ne va pas dire bagué, mais marqué au Canada au mois de septembre et qui a été retrouvé quelques semaines plus tard au Mexique à plus de 3000 km à vol d'oiseau.
Wow, bon,
évidemment, ça
n'a
pas été 3000 km d'une seule traite comme un oiseau pourrait le faire. Ça a été avec plein d'arrêts pour refaire le plein de carburant, c'est-à-dire pour butiner les fleurs.
Oui.
Mais ça montre bien que même des animaux aussi petits qu'un papillon peuvent parcourir de très grandes distances en finalement relativement peu de temps. Parce que 3000 km en quelques semaines, un homme à pied, je ne sais pas s'il pourrait les faire.
Je ne suis pas sûre non plus. Donc, Merveilleux papillon, ça s'est paru aux éditions Glénat. Merci beaucoup, Vincent Albouy. J'ai envie de citer aussi Jacques Blondel, un autre de vos ouvrages, paru aux éditions Quaé, sur la biodiversité, une histoire à réécrire qui vous tient particulièrement à cœur et que je ne saurais trop conseiller à nos auditeurs. Et puis pour ce qui est du vol des animaux, je vous rappelle, chers amis auditeurs, que votre ouvrage commun, Jacques Blondel et Vincent Albouy, paru aux éditions Quaé, est à gagner si vous nous le demandez, gentiment, par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale pour qu'on puisse vous l'envoyer par les airs, évidemment. Merci à tous les deux, merci Jacques Blondel d'avoir été en ligne en direct avec nous. Merci Vincent Albouy d'avoir partagé en duplex depuis les studios de France Bleu à La Rochelle le vol des insectes. Et merci à la technique à La Rochelle, à François Bitard. On se quitte peut-être avec l'envol du bourdon pour que la boucle soit bouclée, chère Alice. Merci. Autour de la question, et oui, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'appli RFI Pure Radio. Avec Céline Ménard à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, nous vous donnons rendez-vous lundi pour un autre envol nettement plus risqué, si j'ose dire, vers Proxima B, l'exoplanète la plus proche de notre système solaire, qui a inspiré un roman astronomique à Mimosa Hafizi, une astrophysicienne albanaise, qui sera en direct pour partager son ciel, mais aussi notre chronique éphéméride mensuelle Ciel d'Afrique, à lundi donc, sous les étoiles exactement. Merci pour votre curiosité, chers amis auditeurs. Dans quelques instants, vous retrouvez les informations sur RFI.